Marie-Christine Lanier, Art et Infinité. La tragédie. Moi qui, avide de grands soupirs et de pleurs, le visage empreint tantôt de menaces, tantôt de douleurs, fille de la foule assemblée dans les vastes théâtres, pâlir de pitié les visages, c'est les traits. Je ne chante aujourd'hui ni le sang versé par d'innocentes veines, ni les yeux éteints d'un tyran insensé, spectacle malheureux au regard des hommes. Fuyez, fuyez loin des demeures royales, simulacres funestes, ombres de tourments. Voici que je change les tristes cothurnes et les sombres voiles. J'éveille dans les cœurs de plus douces passions. Prologue de l'Eurydice de Caccini. Nous sommes à Florence en 1600. Giulio Caccini compose une Eurydice pour le mariage princier fastueux d'une Médicis, Marie de Médicis, avec le roi de France, Henri IV. Et c'est la naissance de l'opéra. Une voix seule, seule, chante sur scène. Et ça, ce fut un tremblement de terre. Il me dit en avoir jamais jusqu'alors entendu de musique pour une voix seule, sur un simple instrument à cordes, qui eut si grande puissance à émouvoir les passions de l'âme, écrit Caccini. Caccini aimait chanter seul, et cette manière de faire était, selon lui, la seule qui permit au chanteur de se libérer de toute contrainte rythmique ou contrapuntique, afin d'atteindre une totale liberté d'interprétation. Le mythe d'Orphée et Eurydice fascinait alors poètes et musiciens. Il fascine Caccini. Ce mythe, c'est l'exaltation du pouvoir d'un chant qui peut vaincre tout, y compris la mort, puisqu'Orphée descendra seul dans les enfers chercher Eurydice morte, son Eurydice. Et la parole chantée d'Orphée, Orphée qui s'accompagnait d'une lyre, réussit à calmer toutes les puissances infernales. Alors Caccini, en 1600, n'hésite pas. Il va démembrer, transgresser tout l'édifice de la polyphonie médiévale et du XVIe siècle que personne n'avait osé toucher avant lui. On a du mal aujourd'hui à se représenter la surprise profonde, la stupeur même, de ceux qui entendirent ce que vous allez entendre. Une favola, une musica, une fable en musique, du théâtre entièrement chanté. Ce fut une fracture esthétique dans l'histoire de la musique.
Turni e i fuori.
Bonjour, c'était beau, n'est-ce pas? Je vous propose de nous intéresser aujourd'hui à un compositeur et chanteur exceptionnel, un peu oublié, Giulio Caccini. Pourquoi? Il fut l'un des artisans majeurs d'une nouvelle musique, à une époque qui, à bien des égards, ressemble à la nôtre, une époque où les savoirs se fracturent. Le grand genre musical à la mode au tournant des 16e et 17e siècles, c'était le madrigal polyphonique. Polyphonique, c'est-à-dire que plusieurs voix chantent en même temps. Or, sur une scène de théâtre, et ce prologue est chanté par la tragédie, cela a à voir avec le théâtre, le madrigal ne permettait pas, ne serait-ce que l'incarnation, d'une personne qui chante. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est le passage de la polyphonie à la monodie, c'est-à-dire une seule voix, et à ce que l'on a appelé la basse continue, c'est-à-dire l'accompagnement de cette voix soliste par un ou des instruments. On croit souvent que l'Orfeo de Monteverdi fut le premier opéra, mais non, il date de 1607. Le premier opéra qui soit arrivé jusqu'à nous, le premier spectacle lyrique entièrement chanté du début à la fin, et dont la musique fut entièrement imprimée, c'est Eurydice, composé par l'Italien Giulio Caccini en 1600. Et chose curieuse, le même livret, écrit par le poète Rinuccini, fut utilisé par un autre compositeur, le rival de Caccini, Jacopo Peri, lors du mariage royal. Et aujourd'hui, les musicologues pensent que Marie de Médicis entendit en fait un collage, un montage des deux opéras qui étaient en compétition. Ils disent que ce qui s'est passé en 1600 à Florence, c'était plutôt l'aboutissement de plus d'un siècle de recherche et d'expérimentation, donc un acte de clôture de ces recherches qui ouvrait en même temps à une nouvelle esthétique, c'est-à-dire la représentation d'un drame lyrique sur une scène de théâtre. Alors, j'ai choisi de mettre ce basculement d'une esthétique musicale à une autre, du madrigal polyphonique à l'opéra, pour faire court, hein, en lien avec quelques autoportraits de peintres conservés au Louvre, des autoportraits à peu près contemporains du 15e au 17e siècle. Pourquoi ? Dans un autoportrait, l'artiste se met en scène, s'autorise à se prendre comme seul sujet de la peinture. En d'autres termes, c'est un artiste qui se représente seul et qui dit « je », qui dialogue directement avec vous, avec les moyens de la peinture. On a parlé de l'émergence de la figure de l'artiste peintre. Au fond du fond, la période romane, puis la période gothique, c'était le temps de Dieu. Mais maintenant, c'est le temps de l'homme. Et l'homme est au centre de toutes les attentions, et il dit « je ». Or, le Louvre a une collection d'autoportraits extraordinaires, sans doute la plus grande collection au monde. Ce qui ne se voit pas parce que les autoportraits sont répartis dans toutes les écoles. J'ai choisi 5 d'entre eux. Ce sont des chefs-d'œuvre absolus de la peinture. Ils furent peints pendant la Renaissance et l'âge baroque. Alors, je remercie Jean-Édouard et puis Stéphane et Claudia qui réalisent cette émission. Commençons avec un autoportrait en médaillon de Jean Fouquet, un émail peint sur cuivre, 1455, que vous avez sur l'écran de rc.fr. C'est l'œuvre que j'aime le plus personnellement au Louvre. Alors je suis très impressionnée de vous en parler. Jean Fouquet est un artiste natif de Tours, un peintre et un miniaturiste. Et en ce milieu du XVe siècle, il réalise le premier autoportrait de la peinture française, dans lequel, et c'est totalement inédit, il ajoute à son effigie ses signatures. Ce qui est, vous me l'accorderez, une véritable affirmation de soi. Il est tout seul. Et ce portrait signature de Fouquet se trouvait à l'origine parmi une série de médaillons qui ornaient les cadres d'un diptyque, c'est-à-dire un tableau à deux panneaux peints, pour le trésorier du roi de France Charles VII. Alors le diptyque est aujourd'hui démembré, mais le Louvre conserve ce médaillon. Cet autoportrait est exceptionnel malgré ses dimensions très modestes. Il est circulaire. Il fait 7 cm et demi de diamètre. Et l'artiste est seul, presque de face et en buste. Il fixe le spectateur, vous, avec intensité. Le visage est grave. Et le simple bonnet cachant les cheveux courts et le vêtement très sobre souligne un regard très mystérieux, très étonnant. Et de part et d'autre de ce visage s'inscrit en lettres d'or Joès Fouquet, c'est-à-dire Johannes Fouquet. Le prénom est donc écrit en italien. Cet autoportrait est, comment dirais-je, régi par un canevas géométrique précis. Je veux dire que vous pourriez l'inscrire dans un triangle pointe vers le bas, lequel triangle pourrait lui-même être contenu dans deux pentagones inversés, donc un sens de la construction qui ne peut être que dû à l'Italie, qui a été assimilée lors de son voyage en Italie. La technique est celle employée lorsque l'on travaille à l'émail peint, c'est-à-dire que c'est très simple, sur une plaque de cuivre, vous cuisez une couche d'émail bleu sombre, et puis Jean Fouquet a peint alors son portrait. C'est de la poudre d'or qui est appliquée sur la plaque de cuivre, et puis c'est dessiné à l'aide d'une aiguille qui permet d'enlever de la matière pour faire le modelé du visage, qui est ainsi constitué de fines hachures. Donc, merveilleux autoportrait où Fouquet affirme l'importance de l'artiste et de ses signatures. Enfin, c'était la première fois dans la peinture française. Et je vous montre, à titre d'antécédent, un très petit autoportrait sculpté d'un sculpteur italien, italien bien sûr, Guy Berti, au baptistère de Florence. Et cette petite sculpture est pareillement incluse en bordure de son œuvre, qui est la porte du paradis en bronze doré du baptistère San Giovanni de Florence.
Thank you.
C'était la Sinfonia ou Ouverture de l'Eurydice de Caccini, dans la version dirigée par Rinaldo Alessandrini et son Concerto Italiano 2014 pour le label Naïve. Second autoportrait, portrait de l'artiste tenant un chardon de Dürer, hein, que vous avez sur l'écran de rc.fr, chef-d'œuvre absolu du Louvre, complètement méconnu parce qu'il est exposé dans les salles de peinture du Nord où personne ne va jamais. Un des grands artistes de la Renaissance allemande. Il s'est scruté tout au long de ses vies. C'est un portrait très fragile sur parchemin et il est considéré comme le premier autoportrait de la Renaissance allemande. Il date de 1493. Dürer est alors âgé de 22 ans. La signification symbolique de cet autoportrait reste ouverte, c'est soit un portrait de fiançailles, le chardon pouvant être interprété comme un symbole de fidélité, soit une allusion à la passion du Christ et au piquant de la couronne d'épines. Il est élégamment vêtu et il affirme ici qu'il est plus qu'un bon artisan. Il revendique le statut d'artiste. Il s'est choisi comme motif unique. Il est seul en scène. François Scheng de l'Académie française l'a ainsi décrit. Je le cite, l'homme tient dans sa main un chardon. Le tableau ayant été peint à l'époque de ses fiançailles, une interprétation suggère que la fleur symbolise la fidélité. Une autre rappelle que, traditionnellement, le chardon est le symbole de la passion du Christ. Dans les deux cas, il s'agit de l'engagement. L'homme est résolu à s'engager à fond dans sa vocation. Ce corps qui est là, poursuit François Scheng, simplement vêtu, avec sa coiffe rouge sur la tête, sa chemise plissée cousue de gros fils rouges et sa veste au liseré également d'un ton brun rouge et comme lacérée de traces de sang. Il semble vouloir donner à éprouver en sa personne un aspect christique. Et de fait, Dürer ira beaucoup plus loin que cet autoportrait où il se montre en jeune homme confiant en l'avenir. Dans son autoportrait en 1500, que vous avez sur l'écran de rc.fr, conservé à Munich, il ose se mettre en scène comme un Christ. Et au premier plan, sa main ne bénit pas. Non, c'eût été un sacrilège. Observez bien, il y a eu une rotation d'un quart de cercle du poignet, ce qui fait qu'il est en train de créer. Et cette fois-ci, il semble bien qu'il s'agisse de révéler la toute-puissance de l'artiste démiurge à travers la main. Et on peut lire en haut à droite cette phrase extraordinaire. Moi, je vous disais, c'est le temps de l'homme. Moi, Albrecht Dürer de Nuremberg, me suis peint à l'âge de 28 ans avec des couleurs éternelles. Donc, c'est la prétention d'être comme Dieu, un artiste créateur par excellence. Alors, les enjeux de l'autoportrait du Louvre sont différents car s'il s'agit d'un tableau de fiançailles, il montre autre chose. Il montre que l'artiste prétend appartenir à ce monde qui est celui où l'on échangeait des portraits entre fiancés, donc un monde de l'aristocratie, de la très haute société. Et il revendique alors le statut de courtisan, c'est-à-dire d'homme de cour. Giulio Caccini, quelques mots sur sa biographie. Il est né en 1551, meurt en 1618. Très jeune, il entre au service des Médicis, cette famille princière florentine qui aura cultivé les liens entre l'art, le mécénat artistique et le pouvoir politique. Il y avait des foyers de savants que l'on appelait des académies, qui se réunissaient dans les cités de tout le nord de l'Italie grâce au mécénat des princes, et notamment à Florence. L'académie ou camerata du comte Giovanni Bardi, celle de Jacopo Corsi. Et je voudrais citer également l'Académie des Alterati, les Altérés, à Florence, qui regroupe entre autres des hellénistes, des philologues, des compositeurs, Caccini en fait partie. Et alors aussi, chose très curieuse, Maffeo Barberini, le futur pape Urbain VIII, le pape poète. Et je trouve que c'était une belle idée d'avoir un pape académicien au XVIIe siècle, parce qu'il allait remplir la ville papale d'œuvres d'art. Et ces cercles d'intellectuels et de poètes, aristocrates, compositeurs, réfléchissaient beaucoup à la tragédie grecque. Alors pourquoi? Ils veulent retrouver la raison pour laquelle la musique grecque ancienne agissait avec une telle force, une telle violence sur les états d'âme du public. Cette musique est perdue, alors tout le monde le savait. Mais il y avait des textes écrits par les anciens, et dans ces cénacles, on étudie passionnément ces textes et on cherche, on cherche, on cherche comment la musique moderne pourrait-elle égaler la puissance affective de la musique antique. Et c'est cette réflexion, patronnée par les hommes de pouvoir, notamment à Florence, cette réflexion qui aura été le moteur intellectuel de bien des découvertes de la modernité. Et Caccini, qui assiste à ces débats et peut-être en tant qu'homme de musique, peut-être y participe-t-il. C'est un peu comme un think tank aujourd'hui. Caccini publie à Florence en 1601 un recueil très important qui s'appelle Les Nuove Musiche. Il y a dans ce titre, vous m'accorderez que c'est un titre militant, Les Nuove Musiche. C'est une nouvelle esthétique qui s'oppose donc à l'ancienne, c'est-à-dire la polyphonie qui en était à son summum. Et la grande nouveauté à l'intérieur de ce recueil, mais mon Dieu, c'est que toutes les pièces étaient des monodies, comme Amarilli mia bella que vous allez entendre. Alors, c'est un chant à une voix. Et basse continue, la basse continue, c'est un accompagnement instrumental. Amarilli mia bella, Amarilli ma belle, ô de mon cœur doux désir, ne sais-tu pas que je t'aime? Crois-le pourtant, et même si la peur t'étreint, il ne faut pas douter, mets mon cœur à nu, et tu y verras gravé Amaryllis, Amaryllis. Amaryllis, ma bien-aimée, interprétée par Anna Reinhold, mezzo-soprano, accompagnée à l'archiluth par Thomas Dunford. Alors, prêtez attention aux accords réalisés par l'archiluth. Cet instrument est, voyez-vous, au service de la voix soliste qui chante. Désormais, cette voix supérieure s'est séparée, elle est isolée. Et je peux ainsi comprendre le texte beaucoup plus facilement que lorsque cinq ou six voix chantaient ensemble, dans un madrigal polyphonique. Cette voix toute seule est un vecteur efficace de transmission d'un texte poétique et une succession d'accords improvisés vont porter la voix soliste. C'était presque une aria, n'est-ce pas? Je vous montre maintenant l'autoportrait de Jacopo Tintoret, 1588 environ, conservé au Louvre, malheureusement présenté dans la salle de la Joconde et donc peu ou pas regardé. Les circonstances de création sont très différentes de celles de l'autoportrait de Dürer. C'est une commande. Une commande faite à Tintoret par un orfèvre et marchand d'art allemand installé à Venise. Et Tintoret est à ce point un artiste célèbre en cette fin du XVIe siècle qu'on lui commande son portrait. Vous voyez, les artistes sont devenus des stars, des personnalités qui comptent dans le monde culturel de leur temps. Et ce portrait de Tintoret a été commandé par un marchand qui voulait avoir sa propre collection d'autoportraits d'artistes. C'est étonnant parce qu'auparavant, on collectionnait des bustes ou des portraits peints de philosophes antiques, d'empereurs romains ou bien d'hommes de guerre ou d'églises des temps modernes, mais dans ces galeries que l'on appelait alors des galeries d'hommes illustres, les artistes ne figuraient pas. Tintoret se représente à mi-corps, de face, seul bien sûr, sur un fond sombre d'où il semble émerger. Il est en train de s'observer dans un miroir. Il est alors âgé de 70 ans et il n'hésite pas à souligner les stigmates du temps sur son visage. C'est un autoportrait qui frappe surtout par l'intensité du regard, deux grands yeux, plutôt deux trous noirs. Deux trous noirs dans des paupières rougies presque tombantes et des cernes noircies. Tintoret est alors un artiste qui est parvenu socialement au faîte de sa gloire et qui se permet, alors que c'est un maître vénitien de la couleur, qui se permet ce portrait d'une très grande austérité. C'est un autoportrait qui a été très copié. Il en existe de très nombreuses copies par des artistes aussi célèbres que Manet, par exemple. Revenons à ce premier opéra qu'est l'Eurydice de Caccini. Je vous rappelle, nous sommes au mariage d'Henri IV et de Marie de Médicis. Henri IV, pour la petite histoire, s'était fait représenter. Donc il n'a pas entendu ce premier opéra qui nous soit parvenu. L'opéra eut lieu après les noces, dans le Palazzo Pitti, donc, je le note, des appartements privés pour quelques invités seulement. Je relèverai quatre points maintenant. Ce qui est tout nouveau, je vous l'ai dit, c'est qu'on chante sur scène du début à la fin, mais j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit plus d'un intermède musical. C'est une œuvre chantée totalement à part entière. Second point, on va entendre le chœur. Alors, le chœur, il y en avait un dans la tragédie grecque. C'est le moment où le chœur dialogue avec les personnages, comme dans le théâtre grec, et vous allez entendre la réaction lyrique du chœur à ce qui vient de se passer sur scène. Eurydice vient de chanter Gagnons, aimable compagne, les ombres de ce riant bosquet fleuri, nous formerons joyeuses rondes et joyeuses danses. Et allons danser, c'est ce que le chœur va répéter. Al canto, al ballo. C'est tout à fait intéressant car le chœur dans la tragédie grecque chantait et dansait. Tout chœur est une assemblée dansante. Aujourd'hui, on parle de chorégraphie dans le domaine de la danse et le terme de chorégraphie est à mettre directement en lien avec cet autre terme, chœur, le chœur d'un théâtre antique qui chante et danse. Enfin, dernier point, vous allez, dans ce que vous allez entendre, percevoir des ornementations, un côté très décoratif, ornemental. Je vous rappelle, Caccini était un chanteur professionnel, virtuose, qui aimait chanter. Alors, cette fois-ci, par l'ensemble Pygmalion, dirigé par Raphaël Pichon pour Harmonia Mundi 2017. Quatrième autoportrait, celui de Nicolas Poussin, 1650, conservé au Louvre. Un autoportrait commandé par un ami et collectionneur parisien des œuvres de Poussin, Paul Fréard de Chanteclos. Et après avoir hésité parce qu'il n'était pas familier de l'exercice, Poussin peint son portrait alors qu'il vit à Rome en 1650. Poussin fut un Romain d'adoption. Une inscription signature est visible sur une toile non peinte située derrière l'artiste. Vous l'avez sur l'écran de rc.fr. Elle est écrite en lettres capitales d'or et en latin. Il a inscrit son nom, Effigies Nicolae Poussini. Son lieu d'origine, Andeliensis Pictoris, c'est un Normand. Il est né aux Andelys. Son âge à l'époque de l'autoportrait, 56 ans. La date et le lieu d'exécution du tableau. Il se représente en buste de trois quarts. Il tourne son visage, un visage à l'expression extrêmement sévère. Les paupières sont rougies, le front barré de rides. Son regard est un peu perdu dans le lointain. Il est vêtu d'un ample manteau ou d'une toge de couleur anthracite. Et sa main droite est posée sur un portefeuille renfermant des dessins. C'est peut-être une manière d'évoquer la recherche en peinture. À l'arrière-plan, Poussin a disposé quatre toiles, dont une seule est peinte. Et seulement un fragment de cette toile est visible. C'est un buste de femme, de profil, portant un diadème, orné d'un œil symbolique, un troisième œil donc, et deux bras l'enlacent. Alors, la scène est évidemment énigmatique. Mais elle a été interprétée par le premier biographe de Poussin, l'italien Bellori, je le cite. Cette femme au diadème, c'est la peinture. Donc je comprends que c'est une allégorie. C'est la peinture et deux mains apparaissent qui l'embrassent. C'est l'amour de la dite peinture et l'amitié à qui le tableau est dédié. Donc nous aurions deux allégories, la peinture et l'amitié. Et ce serait l'amitié qui accueille la peinture. L'amitié de Poussin pour Chanteloup, son mécène et protecteur, et l'amitié de Chanteloup pour la peinture. Autre élément énigmatique, Poussin porte à l'auriculaire de la main droite, très visible, une bague ornée d'un diamant pyramidal. Alors, le diamant, c'est un symbole de constance, et c'est peut-être la constance en amitié. Bref, cet autoportrait, qui est un grand chef-d'œuvre, a donné lieu à de multiples interprétations. Poussin a la réputation d'être un peintre difficile, hermétique parfois. C'est peut-être cela le troisième œil. Poussin est et reste, et c'est unanime comme avis, le plus grand peintre français. Mais il n'y a personne ou presque dans les salles du Louvre où se trouvent ces tableaux. Et de fait, je vous l'accorde, l'austère figure de l'autoportrait ne semble rien faire pour inciter le spectateur à rentrer dans son œuvre. Mais, il suffit souvent, presque toujours, de quelques mots, d'un peu de contexte, pour immédiatement intéresser une personne qui ne connaît pas Poussin, l'intéresser à sa peinture exigeante. Alors, parenthèse iconoclaste, c'est difficile d'intéresser cette personne quand elle émerge totalement décérébrée par des heures d'actu. Alors, actu, ça veut dire actualité. Par la récap des infos. Je traduis la récapitulation des informations. Et puis il y a même pire, les commentaires de commentaires et l'art d'interpréter ce qu'a dit une personne politique. Comment voulez-vous récupérer une telle personne et lui montrer un tableau de Poussin? Je trouve que ce n'est pas fair-play. Peut-être en m'arrêtant devant un tableau avec elle, lui demanderai-je ce qu'elle voit, ce qu'elle voit, ce qu'elle croit comprendre. Et je pense que j'apprendrai certainement beaucoup de choses d'elle, car la culture est, a toujours été et sera toujours une affaire de partage.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Caccini, la nouvelle musique est désormais en capacité d'exprimer les émotions humaines. Elle va dépeindre, quand je dis émotions humaines, je pense à la joie, la tristesse, la douleur, la surprise. Elle va dépeindre la douleur d'Orphée. Orphée à qui on vient d'annoncer la mort d'Eurydice, piquée par un serpent. Et on va entendre la plainte d'Orphée, un chant à voix seule, toujours, avec cet accompagnement, je vous l'ai dit, qu'on appelle la basse continue, et qui apparaît vers 1600. Et c'est un moment de grande douleur, donc l'accompagnement est assez dénudé. Un dernier point peut-être. Cette nouvelle manière de chanter dans un opéra, on l'appelle le recitar cantando. Recitar, cela vient de la scène où Orphée s'exprime seul, c'est du théâtre, il déclame. Et la basse continue justifie le cantando, c'est du théâtre en musique. L'idée, c'est d'avoir une sorte de déclamation stylisée. Ce n'est pas encore de faire des beaux airs pour plaire au public. Mais c'est un style récitatif. Et cela n'a rien à voir avec les opéras chantés au XVIIIe siècle, ceux de Mozart, par exemple. Ils sont chantés, alors. Non, au XVIIe siècle, ce n'est pas de l'opéra au sens actuel du terme. C'est mi-parlé, mi-chanté. Vous allez entendre Orphée, non piango e non sospiro, je ne pleure ni ne soupire. Alors, il est malheureux, n'est-ce pas? Orphée descend dans les enfers et dans le mythe d'Orphée, la fin est bien plus cruelle que celle de l'opéra de Caccini. Orphée pourra ramener Eurydice dans le royaume des vivants à condition de faire tout le chemin du retour sans se retourner vers son épouse. Et alors qu'il a réussi le plus difficile et que le couple réuni est presque sauvé, au dernier moment, Orphée ne peut s'empêcher de se retourner et de regarder Eurydice. Et il perd Eurydice pour la seconde fois et définitivement, cette fois-ci. Alors au contraire, avec Caccini, c'est une happy end. On falsifie la fin de l'histoire. Il était tout de même difficile de séparer des époux lors de spectacles pour des festivités de mariage. Donc tout se terminera bien dans l'opéra de Caccini. Dernier autoportrait du Louvre, celui de Rembrandt, en contraste total avec celui de Poussin. Ce sont deux manières complètement différentes de se représenter. Celui de Rembrandt date de 1660. C'est un autoportrait peint par l'artiste à l'âge de 54 ans. Rembrandt aura passé toute sa vie à scruter ses traits. Il a aimé se travestir ou bien mettre en scène sa réussite sociale. Mais le propos est tout autre. En cette année 1660, il s'agit là d'un portrait de la vieillesse. Il se représente de trois quarts à mi-corps et le visage est empreint d'une certaine lassitude. Ce qui est très frappant, c'est qu'il peut à ce point revendiquer son statut d'artiste. Il est en tenue négligée avec une espèce de robe de chambre, un bonnet ou un linge sur la tête, qu'il n'a même pas à faire semblant d'être autre chose que cette figure. Il vient d'être ruiné, d'ailleurs. Il a des symboles de l'artiste, la palette, le pinceau, l'appui-main, qui sont présents non pas pour qu'on l'identifie en tant que peintre, mais pour que l'on comprenne qu'il est dans l'acte même de création. Et c'est un artiste qui vous scrute et qui vous dit « Je suis ce peintre-là, un vieux bonhomme appauvri, mais qui crée. » Et Rembrandt a réduit sa palette au point de dire que l'art peut se réduire à cette manière de traiter les brins. Donc un très émouvant autoportrait de vieillesse où il n'en a plus rien à faire de ce que l'on peut dire sur lui. Alors pour clore cette émission, je vous propose d'écouter une pièce expressive de Caccini, publiée dans les Nuove Musiche, parue cette fois-ci en 1614, et qui est exceptionnellement ornée. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, Caccini est un chanteur qui s'est intéressé à l'ornementation des simples mélodies. Et c'est le caractère décoratif, ornemental des mélodies qu'il cherche à développer. Ah, vous allez entendre « Acqui sospiri ardenti », à ces ardents soupirs que tu feignais d'exhaler par trop d'ardeur, à ces douces plaintes mélangées de larmes amères d'amour. L'amoureux crédule a perdu son esprit et son cœur, et je n'ai pu éviter le coup mortel de la flèche d'amour. C'est une composition monodique, mais il y aura des vocalises, des trilles, des notes en roulade qui jaillissent comme des moments d'émotion pure. Vous allez aussi percevoir une sorte de désinvolture, c'est le dernier mot. Très important que les Italiens utilisent le mot sprezzatura, une désinvolture ou liberté rythmique, le moment où la discipline et le travail ont été tels que le créateur s'autorise à transgresser ce que lui-même a écrit et à commencer à interpréter librement. Et on se rend compte, me semble-t-il, en écoutant cette pièce, que l'on va basculer bientôt vers une rhétorique de la pure jouissance lyrique et que Farinelli n'est pas bien loin. Au revoir. Oh.
Vous venez d'entendre Art et Affinité, dirigé par Marie-Christine Lanier, émission préenregistrée le 28 mars 2026 et diffusée pour la première fois jeudi 2 avril 2026 de 10h à 11h et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.